chanteront le temps des cerises et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises sifflera bien mieux le merle moqueur.
Bonsoir, on se retrouve donc pour une édition nouvelle des dossiers de Comaguerre qui va être consacrée ce soir à l'Europe. Alors pourquoi consacrer un dossier à l'Europe? C'est pas du tout pour faire prendre la présidence tournante du Conseil européen, mais c'est pour essayer, au contraire, pour reprendre le vocabulaire d'un philosophe français contemporain, de déconstruire un peu cette notion qui paraît obscurcir un peu toute perspective de réflexion politique, sociale, là où nous sommes en ce moment et à la période où nous sommes, pour montrer qu'effectivement, il y a beaucoup de choses à dire sur cette notion d'Europe, et je vais commencer par faire un peu de géographie. Et je remercie Sylvie d'être à mes côtés, enfin, ou en face de moi, dans la cabine technique, pour assurer le son de cette émission. On va commencer par de la géographie toute simple. L'Europe est un continent. On vous dit ça, et vous acceptez parce que vous l'avez entendu dire. En vérité, si vous allez rechercher la définition d'un continent, c'est une masse de terres, un ensemble de terres, donc un ensemble de pays, qui sont entourés d'eau. Et à ce moment-là, effectivement, la difficulté commence, parce que si vous regardez bien une map monde ou un globe terrestre, il y a 5 continents, en fait. Il y a 5 continents qui occupent en gros une bonne partie des terres émergées. En gros, c'est 54 millions de kilomètres carrés. Et le gros morceau, le gros continent, celui qui est une vaste terre entourée d'eau, c'est non pas l'Europe, c'est l'Eurasie. L'Eurasie qui, donc, s'étend d'ouest en est depuis l'Atlantique jusqu'à la limite, c'est le détroit de Bering qui marque la limite entre le territoire de l'Amérique et le territoire de l'Eurasie. Et cette énorme masse de terre, donc 54 millions de kilomètres carrés, pour donner une échelle, c'est la France occupe à peu près 1% de cette surface. Donc c'est immense, l'Eurasie. Et ça représente, sur la totalité des terres émergées, puisqu'il s'agit de ça pour les continents, quasiment 37% des terres émergées, c'est-à-dire un gros tiers des terres émergées, d'où sa masse. Bien ensuite, dans le classement, je fais un classement, l'Afrique, qui a 30 millions de kilomètres carrés et qui représente 20% des terres émergées. Et puis après on arrive à l'Amérique, l'Amérique qui est un peu plus petite que l'Afrique en superficie, mais qui, vous le savez, est faite un peu de morceaux, qui fait 28 millions de kilomètres carrés, donc un peu plus petite que l'Afrique, et qui se sépare entre 17 millions pour la partie nord, donc vous savez, Canada, États-Unis, Mexique, et 12 millions pour la partie sud. Et puis, il reste l'Océanie, alors dont on passe, c'est assez facile à identifier, enfin, c'est une série d'îles autour de grande île qui est l'Australie, qui représente 8 millions de kilomètres carrés, c'est beaucoup plus petit. Et donc on a là une notion assez particulière qui fait que quand on regarde les continents tels qu'ils sont définis par les géographes et par les définitions que vous trouvez dans tous les dictionnaires, l'Europe n'existe pas en tant que continent. Ce n'est jamais qu'un morceau de l'Eurasie, le morceau le plus occidental. Et pour donner une idée des proportions entre les deux, sur la totalité de ces 37% de la surface des terres émergées, donc de la surface des terres habitables, l'Asie fait 30% et l'Europe fait pas tout à fait 7%. Donc c'est 4 fois plus petit. C'est 4 fois plus petit et donc ça donne une idée exacte des rapports de proportion entre cette Europe dont on nous parle beaucoup, qui nous paraît être l'horizon de toute notre activité historique, de toutes nos sociétés, et puis cette Eurasie qui est en fait la réalité géographique du continent. On s'ajoute à ça, ce qui est aussi un élément qui pèse dans la présentation du sujet, c'est que la population humaine se répartit très très inégalement sur la totalité de ces continents. L'Asie en tant que telle représente avec 4,6 milliards d'habitants quasiment 60% de la population mondiale. Asie, hein, donc après je reviendrai sur la coupure entre l'Asie et l'Europe. L'Afrique en tant que telle est le deuxième continent le plus peuplé, mais avec beaucoup moins, puisque c'est 1,3 milliard d'habitants, en croissance d'ailleurs rapide. L'Amérique est un peu, est même après, avec 13% de la population mondiale, le Nord et le Sud et l'Amérique centrale. Et l'Europe arrive bon dernier dans ce classement, avec pas tout à fait 10%, avec 750 millions d'habitants. Voilà les ordres de grandeur, en même temps en termes de superficie et en termes de taille. On verra, et on sait depuis quelques décennies maintenant, qu'en plus de ce déséquilibre en taille et en population, il y a aujourd'hui un déséquilibre économique ou une répartition de nouveaux équilibres entre ces masses continentales et cette Eurasie et cette Europe. Alors qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Comment ça se fait que l'Europe est devenue une espèce de bout de continent qui a son destin propre, qui semble échapper au fait qu'il fait partie de cette énorme masse géographique, tout en n'en faisant pas partie ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, d'abord, il faut avoir l'idée qu'il s'agit d'une construction assez récente. C'est-à-dire qu'on parlait de l'Europe, et je ne veux pas revenir à la création mythique de l'Europe avec une océanidée, donc une nymphe qui était parmi 40 autres, je crois, la déesse des eaux, et en particulier des eaux terrestres, des rivières, des ruisseaux, des lacs, etc., qui aurait donné son nom à notre morceau de continent. Et puis vous connaissez la fameuse légende, dont on nous parle assez souvent, mais qui est contestée même dans sa réalité, enfin dans ses racines historiques éventuelles, qui serait donc Europe, une nymphe, donc une océanide, comme je vous l'ai dit, qui serait enlevée par Zeus transformé en taureau, et donc qui aurait un destin de belle femme prise par le dieu. Tout ça n'est pas d'un grand intérêt, si ce n'est que le mot existe depuis longtemps, mais il a pris des sens très très différents. Une nymphe, à un moment donné, l'enlèvement par Zeus transformé en taureau, et puis la notion d'Europe ne s'est pas beaucoup constituée, pour la bonne raison qu'il n'y a pas eu d'Europe politique et que même les grands empires sur lesquels on a l'habitude de fixer les cadres géographiques de nos réflexions et de notre connaissance historique, au moins dans les périodes de l'histoire, ça ne s'est pas fait à cet endroit-là. C'est-à-dire, ce qui s'est fait, c'est l'Empire romain, on le connaît tous. Ce qui s'est fait, c'est l'Empire égyptien. Et là, on connaît la géographie. Mais pendant très longtemps, et c'est ça qu'il faut que nous ayons en tête, l'Europe en tant que telle n'a pas existé. Existé ni dans aucune institution, ni même dans les têtes. Quand on sait qu'en plus, l'Empire byzantin, qui après la suite de l'Empire romain, donc l'Empire romain dit d'Orient, s'est installé avec comme capitale Istanbul d'aujourd'hui, Constantinople, et qu'il a étendu ses territoires d'un côté sur ce qui est aujourd'hui l'Europe dans l'acception courante, de l'autre côté vers le Proche et le Moyen-Orient, on voit bien que l'Europe n'était pas le centre du monde. Et puis cette Europe s'est émancipée à un moment donné. Alors, à ce bout-là, dans ce morceau-là du continent, il y a eu quand même beaucoup d'activités historiques, des guerres de religion, des guerres entre monarchies, la guerre de 100 ans, la guerre de 30 ans, et tout ça, je ne vais pas revenir sur cette situation-là. C'était un morceau de la communauté humaine qui était relativement agité, avec des frontières qui étaient mouvantes, avec des pays qui se constituaient petit à petit dans des frontières nationales, mais c'était pas un endroit central. L'Europe devient centrale dans l'histoire humaine à partir du XVIe siècle. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que ce sont les Européens, ça c'est incontestable, qui ont inventé la colonisation. Alors pas tous, bien entendu, mais vous savez que dans l'ordre, on prend les Portugais, puis ensuite les Espagnols, et puis les Néerlandais, et puis les Britanniques, et puis les Français, et les derniers venus, les Italiens et les Allemands. Et tout ce beau monde, j'allais dire, va aller s'installer sur le continent des autres, dans des conditions sur lesquelles je ne veux pas m'étendre, c'est la colonisation. Et c'est à ce moment-là, effectivement, que l'Europe commence à prendre un visage commun, mais c'est trompeur aussi, puisque, au fond, les autres pays d'Europe que nous connaissons aujourd'hui, que ce soit la Suisse, par exemple, qui est partie de l'Europe, mais qui n'en fait pas toujours partie, je vous expliquerai pourquoi, que ce soit les pays qu'on appelle d'Europe centrale et orientale, ils sont regroupés dans l'Empire des Habsbourg qu'ils sont pas. Mais enfin, on n'a pas de tradition coloniale, ni dans l'Autriche-Hongrie, ni en Pologne, ni dans les pays plus à l'Est. Donc, on a bien cette caractéristique qui commence au XVIe siècle et qui nous mène jusqu'à maintenant, en gros, où l'Europe, petit morceau des terres émergées, morceau de continent, se met à mettre les pieds partout. Et d'une façon qui, vous le savez, globalement est assez violente et qui s'apparente, enfin qui est pour beaucoup d'ailleurs, un pillage de matières premières, une surexploitation des populations, tout ça est connu. Ce n'est pas un très très beau début, je veux dire, c'est comme ça, mais elle est là, et à partir de ce moment-là, effectivement, les Européens, puisque je dis que ce n'est pas tous les Européens, mais les Européens colonisateurs, c'est en gros tous ceux qui sont à l'ouest du continent, puisque la colonisation se fait à partir de pays qui ont accès à la mer. Donc qui partent, c'est des expéditions maritimes qui vont coloniser. Et c'est évidemment pas l'Autriche ni la Bulgarie qui va faire des opérations de colonisation, puisque eux, ils n'ont pas de marine et ils n'exportent pas leur population. Voilà donc cette Europe un petit peu cadrée, insérée dans l'histoire, mais essaye à ce moment-là de se déterminer, et c'est dans ce moment de plénitude, c'est-à-dire de l'intervention européenne sur la totalité du monde, puisque tous les autres continents sont touchés, l'Asie, l'Afrique et les Amériques sont touchés. Alors les Amériques, on le sait, avec en particulier la création donc des États-Unis d'Amérique, qui n'est jamais qu'une colonie, de l'Europe, c'est tout à fait clair. Elle l'a été dès le début avec des Hollandais, ensuite avec des Britanniques, ensuite avec des Allemands, des Italiens. Enfin, on sait que la colonisation des États-Unis est une colonisation réalisée par les Européens. La différence, quand même, il faut insister là-dessus, entre cette colonisation de l'Amérique par les puissances maritimes européennes et les colonisations qui ont suivi, c'est qu'il s'agit du seul cas où le colonisateur a quasiment éliminé toute la population qui précédait son arrivée. Alors, bien sûr, vous savez, il y a des réserves indiennes et tout, mais enfin, la conquête, l'accaparement du territoire des États-Unis par les colons européens conduit à la disparition, ou quasi-disparition, des populations locales, indigènes, on dirait, qui n'ont plus leur place, qui n'ont plus d'importance et qui sont cantonnés encore aujourd'hui dans des camps, mais qui n'ont plus aucun poids. Donc le pays leur a été pris par les colonisateurs. Ça, c'est l'Europe, parce que c'est l'Europe dans ses mentalités colonisatrices poussée à son extrême. C'est tout à fait utile de le rappeler. Donc on est à ce milieu du 19e siècle où la question se pose de définir géographiquement l'Europe. Et il va sortir, en gros, c'est dans les années 1850, un découpage qui fleurit encore sur les cartes, parce qu'aujourd'hui, vous voyez encore, si vous allez à la rubrique Europe et que vous cherchez à carte, effectivement, vous allez avoir une limite quelque part. Cette limite, donc, elle est nouvelle, elle est du milieu du 19e siècle, elle est éminemment arbitraire. Alors, je la prends pour ce qu'elle est, c'est-à-dire que on passe au milieu de ce qu'il appelle la mer Égée, donc aujourd'hui à mi-chemin entre la Grèce et la Turquie, où donc là, c'est l'Europe qui va dire la Grèce, c'est à l'ouest, c'est l'Europe, et la Turquie, c'est à l'est, c'est l'Asie. Bon. En fait, c'est bien on est bien sur le même continent eurasiatique. Donc on remonte la mer Égée et on arrive dans les détroits, on arrive donc à Istanbul d'aujourd'hui. Et là, on dit, ah, puisqu'il y a de l'eau et qu'un continent est séparé par de l'eau, eh bien, on va dire qu'à droite, en montant vers Istanbul, c'est l'Europe, et à gauche, non, c'est la mer, à droite, en montant, c'est, à gauche, en montant, c'est l'Europe, et à droite, c'est l'Asie. Ce qui veut dire que, alors, on est tout à fait dans l'arbitraire. Si vous êtes à Istanbul, hein, vous regardez la deuxième rive de la ville, et puis vous dites, ah, ben là, moi, je suis du côté européen, et là, c'est le côté orient. En fait, vous êtes sur le même continent eurasiatique. Et puis, vous remontez. Alors, on traverse la mer Noire. Et puis là, on va tracer un trait un peu au hasard des considérations historiques et tout pour dire, effectivement, on considère que la limite entre l'Europe et l'Asie, puisqu'il faut en tracer une et qu'il a été décidé de donner une personnalité et, j'allais dire, même une identité géographique à cette Europe, on va la faire passer quelque part dans le Caucase. Et donc, on l'a fait passer, alors, imaginez l'endroit, parce qu'on en a beaucoup parlé il n'y a pas si longtemps, on l'a fait passer quelque part entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Vous savez qu'ils se sont affrontés, alors qu'ils sont voisins de très longue date. Comme si l'Arménie était un pays européen, spécifiquement, et comme si l'Azerbaïdjan était un pays asiatique. Bon, fait, ce sont des voisins sur la totalité de ce continent eurasiatique qui ont des rapports compliqués pour toute une série de raisons sur lesquelles je ne vais pas m'étendre. J'en m'en tiens à ce découpage, à cette espèce de tracé, cette ligne frontière que les géographes européens imposent à la, au reste de la planète et de l'humanité en disant « il y a une coupure ». Alors, il n'y a pas de coupure entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Une fois qu'on est en Azerbaïdjan, on arrive à la mer Caspienne, et là aussi, alors, l'arbitraire continue, puisqu'on va remonter donc, de l'Azerbaïdjan, donc au sud-ouest de la mer Caspienne, jusqu'à vers le nord de la mer Caspienne, et on va dire qu'en gros, à côté ouest, c'est l'Europe, et côté est, c'est l'Asie. Bien, mais ça se discute. Et puis, arrivé tout à fait au nord de la mer Caspienne, on a trouvé deux fleuves qui débouchent donc, dans la mer Caspienne. Il y en a un qui s'appelle la Volga, qui est très connu, et l'autre qui s'appelle l'Oural, qui est moins connu. Et en fait, on fait passer les géographes et les géopoliticiens qui font ce découpage artificiel, dire que ben, la limite entre l'Europe et l'Asie, elle passe là. Alors pourquoi elle passe là? Parce qu'on a découvert, enfin on n'a pas découvert, mais on s'appuie sur le fait que la rivière Oural, le fleuve Oural, donc, qui se jette donc au nord-est de la mer Caspienne, elle prend sa source dans une chaîne montagneuse qui s'appelle l'Oural. Et donc, on dit, puisque là il y a une chaîne montagneuse qui est en gros une chaîne orientée nord-sud, il y a une espèce de séparation physique, géographique, donnée entre l'Europe et l'Asie. Ça vaut ce que ça vaut, c'est-à-dire, j'insiste là-dessus, c'est une chaîne assez longue, mais dont le point culminant ne dépasse pas 1800 mètres, c'est souvent 1200 mètres, les premiers, selon les morceaux, et donc en fait, ça n'a jamais empêché, ça n'a jamais marqué la limite d'un territoire, et la limite d'une occupation humaine, et la limite même d'extension d'un pays dans un sens ou dans un autre. Mais on s'est fixé à ça, et on s'est tellement fixé que ça reste encore une espèce de truisme de la géographie aujourd'hui, et on se souvient des paroles fameuses du général de Gaulle qu'il a reprises à plusieurs reprises, l'Europe de l'Atlantique à l'Oural, comme si là tout d'un coup il y avait une espèce de fossé qu'il n'était pas possible de franchir. Or c'est tout à fait faux, l'histoire montre tout à fait le contraire. Ce fossé a été franchi de nombreuses fois. Il a été franchi parce que d'abord, je vous dis, cette chaîne montagneuse est facile à franchir. Elle est dans des zones qui sont soit des zones assez froides du côté sibérien, soit des zones, ce qu'on appelle la zone des steppes plus au sud, mais où la vie est tout à fait possible, il y a une vie de longue date, et même tout à fait au sud de la chaîne de l'Oural, entre le nord de la Caspienne et le sud de la chaîne de l'Oural, il y a plusieurs centaines de kilomètres qui sont de la steppe, c'est-à-dire des endroits plats ou vallonnés dans lesquels on peut circuler, des armées, des populations peuvent circuler. Donc la coupure qui a été instaurée dans les têtes et sur les atlas entre l'Europe et l'Asie est une coupure artificielle. À telle enseigne qu'on oublie, ou on veut l'oublier, parce que c'est peut-être pour ça que ça a été découpé comme ça, on veut oublier qu'il y a beaucoup de populations dans les temps historiques qui sont allées de l'ouest, de l'est de l'Eurasie jusqu'à l'ouest. Les premiers, alors ils ont mauvaise réputation, mais ils ont quand même fait le trajet, ce sont les Turco-Mongols qu'on appelle les Huns. On est dans les années 400 après Jésus-Christ. Ils sont à cheval, bien entendu, ça va rester le mode de transport de tous ces nouveaux empires, et ils vont arriver quand même jusqu'au nord de la France, puisque la dernière bataille la plus occidentale que mènent les Huns sur le territoire de l'Europe, enfin de l'Eurasie extrême ouest, c'est dans la région de Troyes, donc sur le territoire de la France actuelle. Alors cette population turco-mongole a donc fait entre 6 et 7 000 kilomètres à cheval, a soumis des populations locales. Alors il faut voir ce qu'est qu'un empire fondé comme ça à cheval, c'est un empire qui arrive pas assez violemment, par la force, qui soumet, mais qui n'élimine pas souvent, mais qui demande soit d'être acheté, d'avoir des cadeaux, d'avoir une reconnaissance sur un certain nombre de biens matériels, mais qui n'a pas la capacité, vu la taille qu'il prend, il n'a pas la capacité d'organiser un État comme on peut l'imaginer à la période contemporaine. C'est simplement un empire très vaste qui vit avec des allégeances des uns et des autres et qui, quand ça se passe mal, est capable de violence, ça ne fait pas l'ombre d'un doute, mais ce n'est pas réservé à ces populations turco-mongoles. Là, on est en 400 après Jésus-Christ. Ce même phénomène va se reproduire pratiquement 800 ans plus tard avec l'empire de Gengis Khan. Gengis Khan aussi, mongol, la dynastie mongole, qui lui aussi va faire son chemin vers l'ouest, donc ne rencontrera pas de difficultés, arrive à circuler, donc il n'y a pas de coupure, c'est pas comme un océan, il n'y a pas d'océan, donc on peut très bien construire un empire qui part de Mongolie et qui arrive jusqu'au milieu de l'Europe actuelle. La limite est un peu moins occidentale que dans le cas des Huns, mais on arrive jusqu'au niveau de la Hongrie, de la Bulgarie, de pays comme ça. On a donc passé et la mer Noire et la mer Caspienne, etc. Ça, c'est Gengis Khan. Ça, c'est Gengis Khan et ses successeurs, puisqu'il a des héritiers. Et donc, Gengis Khan, il produit quand même quelque chose d'assez exceptionnel, c'est que dans le même temps où il établit son empire sur la plus grande partie des terres du continent eurasiatique, il prend le pouvoir en Chine. C'est-à-dire, il travaille à la fois à l'est sur la Chine et il s'étend vers l'ouest à travers donc les steppes jusqu'au milieu de l'Europe actuelle. Et il crée d'ailleurs, c'est lui, enfin de son petit-fils, va être le fondateur d'une dynastie chinoise qu'on appelle la dynastie mongole, qui va avoir le pouvoir jusqu'en 1600, jusqu'à l'arrivée de la dynastie Ming. Et donc on a là un exemple tout à fait frappant et historiquement pertinent et incontestable que ces populations mongoles ont été capables d'occuper politiquement la quasi-totalité du continent eurasiatique, ne s'arrêtant que vraiment tout à fait, pas très très loin de l'océan Atlantique, mais allant très très loin vers l'ouest. Il y aura encore une nouvelle expédition de cette taille-là, qui sera celle menée par Tamerlan, autrement sous son autre nom, c'est Timurlang, qui, partant de la même Mongolie, alors lui ne passera pas, ne prendra pas le pouvoir en Chine, mais il va aussi faire un trajet très très long, pour aller vers l'ouest, là encore, suivant le chemin des caravanes et des steppes. Et tout. Et c'est lui, donc, qu'on verra arriver très très près de l'Europe telle qu'on la connaît à l'heure actuelle, qui va quand même arriver à Bagdad et raser Bagdad, hein, donc faire tomber la dynastie des Abbassides à ce moment-là, qui va aller encore un peu plus à l'ouest. Et c'est lui qui va donner l'envie, si j'ose dire, à des Européens, tels que nous les appelons aujourd'hui, d'aller voir un peu ce qui se passe de l'autre côté. Et en gros, on peut dire que le projet de Marco Polo, c'est un projet qui est nourri par cette idée qu'il y a une circulation possible, il y a des échanges d'idées, de biens, même il y a aussi des échanges de coûts, mais l'Eurasie est un ensemble et on peut aller d'un bout à l'autre. D'où le voyage de Marco Polo, tout simplement. La curiosité, puis même si c'était alors sur des quantités toutes petites, mais des produits venant d'un bout de cet immense continent pouvaient aller du côté de l'autre, on savait qui on avait. Vous savez que par exemple, on a trouvé, ça correspond à une autre expédition qui est l'expédition d'Alexandre le Grand qui va jusqu'en Inde, lui il va donc dans le sens de ouest-est, et vous savez qu'on a retrouvé dans des fouilles en Afghanistan des monnaies avec des inscriptions en grec. Donc il y avait soit des Grecs qui étaient installés dans l'Afghanistan actuel, soit des commerçants qui voulaient travailler avec les Grecs qui étaient un peu plus à l'ouest et qui frappaient monnaie et qui donc utilisaient le grec pour leurs affaires commerciales. Donc on a tous ces mélangeages, je ne vais pas refaire toute l'histoire de cet immense continent, mais la coupure entre l'Europe et l'Asie est une fabrication historique qui ne correspond pas à la réalité de l'occupation de ce continent. Et donc, que ce soit. Alors, les seuls qui n'ont pas beaucoup bougé, j'allais dire, qui sont restés chez eux, c'est les Chinois. C'est les Chinois parce qu'ils sont face à un très grand pays. Ils sont face à un pays qui est capable d'autonomie agricole, industrielle ou artisanale. Et donc, ils n'ont pas tendance à déborder. Ils ont même plutôt, on le sait, puis en témoigne la Grande Muraille, ils ont plutôt tendance à rester repliés chez eux et à se protéger justement des Mongols ou des gens des steppes qui sont assez avides des richesses de la Chine, avides des terres à blé et des terres à riz de la Chine et qui sont de toute façon extraordinairement moins nombreux. C'est ça qui est important à savoir. Voilà donc une histoire qui n'est pas celle d'une Europe et d'une Asie, mais une histoire de l'Eurasie qui dure donc depuis remontant Attila même avant, depuis deux millénaires, et qui n'est pas du tout une histoire coupée en morceaux, comme on voudrait le frère. Donc la coupure que je vous ai dite, le tracé géographique, Istanbul, la mer Noire, le Caucase et l'Oural, c'est un trajet qui ne... Enfin, parfaitement arbitraire, qui correspond à un état des rapports de force politiques à un moment donné, mais à rien d'autre. C'est-à-dire que c'est la limite au-delà de laquelle les Européens ne vont pas aller. Les Européens, là, à cette époque-là, vers 1850, sont entièrement tournés vers leur conquête coloniale, qui se feront donc beaucoup plus du côté de l'Ouest. Et puis, quand ils iront vers l'Est, ce ne sera pas du tout par la voie terrestre, ce sera par la voie maritime. Et donc, on a à ce moment-là les colonisations de l'Inde par la Grande-Bretagne, de l'Indonésie par les Pays-Bas, de l'Indochine par la France, mais ça ne passe pas par l'intérieur du continent. On accède à la couronne. On accède à la couronne et on n'accède pas du tout au cœur du dispositif eurasiatique qui est là, quelque part dans ces steppes, entre la Mongolie ou l'extrême nord de la Chine, et puis le début, les confins de l'Europe, enfin, ce qui se passerait aujourd'hui, je vous dis, du côté de la Hongrie, de la Tchécoslovaquie, c'est à peu près là la limite. C'est ça qui s'est passé, c'est ça qu'on a voulu cacher, et c'est ça qui a permis de dire il y a une Europe en construction, par exemple. C'est une Europe tout à fait factice. Le dernier élément qu'il faut ajouter, parce que quand on fait ce découpage tel que je vous l'ai décrit, donc l'Oural, la mer Noire, Istanbul et la mer Égée, on est obligé, bien sûr, de couper la Russie en deux. Ce qui ne va pas de soi, c'est quand même un État qui s'est unifié progressivement, certes, mais c'est quand même un État. Et on est obligé de faire comme si la Russie n'avait pas conquis la Sibérie. Je parle bien de conquête, parce qu'effectivement, il y avait des populations locales, et c'est la Russie qui, dans un effort considérable et dans des conditions, vous l'imaginez, matérielles, physiques extrêmement dures, hein, des pays donc de gel permanent, de climat très très dur, a conquis la Sibérie. C'est-à-dire que la Russie fait, et c'est ça qu'il faut noter, le trajet inverse des Mongols, donc d'est en ouest, elle fait le trajet inverse, c'est-à-dire elle part de la période de la partie de son territoire qui est la plus européenne, donc autour de Saint-Pétersbourg, de Moscou, de Kiev, etc. Et elle part vers l'Est et elle va aller jusqu'au bout du continent. Et elle sera la seule à l'avoir fait. Le bout du continent, c'est le détroit de Bering, comme je l'ai dit tout à l'heure. Entre Moscou et le détroit de Bering, il y a 7000 km. Il y a 11 fuseaux horaires. C'est-à-dire, on mesure là, et encore la Russie ne va pas beaucoup, ne déborde pas sur l'Ouest, mais on a là l'immensité russe qui existe toujours, qui était encore plus marquée du temps de l'URSS, mais qui reste comme une donnée fondamentale, c'est-à-dire que la Russie a maîtrisé au moins la partie nord de ce continent eurasiatique, jusqu'à de nos jours. Elle est arrivée au détroit de Bering. Alors le détroit de Bering, je m'arrête un tout petit peu là-dessus, parce que Bering, c'est un navigateur danois, que le tsar embauche, parce qu'on avait des doutes, mais on pensait bien qu'il y avait un passage, quelque part une coupure avec de l'eau ou des glaces entre l'Eurasie et puis quelque chose qui allait de l'autre côté, mais on n'était pas sûr. Et Bering, donc, qui fait le voyage, qui arme un navire et qui fait le voyage à la demande du tsar, va montrer qu'il est effectivement possible de traverser le détroit de Bering, donc va montrer qu'il y a effectivement une coupure maritime évidente entre l'Eurasie et l'Amérique. Qui est encore visible sur les cartes et qui est. On rentre tout à fait dans la définition sur laquelle j'insistais. Un continent est une terre entourée d'eau. Et le détroit de Bering, l'existence même du détroit de Bering, quand elle a été avérée, a bien prouvé qu'effectivement l'Eurasie s'arrêtait là. Alors elle s'arrête là, mais curiosité, le détroit de Bering, c'est pas immense. Le détroit de Bering, c'est 80 km de large. Donc il faut bien se rendre compte que entre l'Eurasie, côté ouest du détroit de Bering, et l'Amérique, côté est du détroit de Bering, où on trouve l'Alaska, il y a 80 km entre ce qui serait la Russie d'aujourd'hui et les États-Unis d'aujourd'hui. 80 km avec au milieu deux îles qui sont l'une sous souveraineté russe et l'autre sous souveraineté états-unienne, qui sont à 8 km l'une de l'autre. Et là, donc là, on a effectivement la définition du continent, une terre entourée d'eau. Et en fait, on a quand même un voisinage. Et vous savez, c'est à peu près établi maintenant par la paléogénétique, que la population du continent américain est une population venue d'Eurasie qui, petit à petit, une fois qu'elle a eu traversé le détroit de Bering, s'est étendue sur le continent, d'abord la partie nord, ensuite la partie sud, Et donc là, on a effectivement un mouvement humain qui a été possible, qui n'était pas... Bon, on ne parlait pas de colonisation, ça n'avait pas de caractère, mais on a bien donc une confirmation que c'est l'Eurasie, avec l'héritage africain, hein, ça, je parle de paléogénétique, qui a essaimé, et l'Amérique, au départ, n'est pas peuplée par l'espèce humaine. Voilà ce qui donne un premier caractère géographique à ce que je voulais vous faire découvrir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une Eurasie, il y a un ensemble continental avec des destins politiques différents, avec toute une série de différences, mais après tout, il y en a autant dans certains pays d'Europe. Pensez aux différences, alors qui coupent souvent l'ouvre en deux, des différences religieuses, comme entre la catholicité d'un côté et l'Église orthodoxe de l'autre, les conflits entre, chez nous, entre catholiques et protestants. Toutes ces particularités-là ne peuvent pas cacher, elles sont des particularités régionales, de la même façon qu'il y a des particularités entre la Chine, l'Indochine, l'Inde, etc. L'Inde qui reste relativement à l'écart de tous ces mouvements-là, c'est-à-dire il y aura là aussi, comme dans le cas de la Chine, une colonisation mongole, mais on reste à la périphérie de la masse de l'Eurasie. Cette périphérie de masse de l'Eurasie, elle a pris un nom chez un grand géopoliticien britannique qui s'appelle Mackinder. Il a dit, c'est là le cœur de l'habitat humain. Cette énorme masse qui fait de plusieurs milliers de dizaines, presque une dizaine de milliers de kilomètres. C'est là le cœur. Et il dit, au fond, le pays qui peut exercer le pouvoir sur le monde, c'est celui qui maîtrise cette masse-là. C'est un rêve qui était un rêve de Britanniques, mais ils étaient très très loin du compte, puisque partant de leur petite île, leur mode de colonisation était un mode maritime et qui ne pouvait mordre dans la chair de l'Eurasie que par des points littoraux. Alors l'Inde, c'est pas un point littoral petit, mais c'est comme ça. L'Indonésie, c'est là où les Britanniques, les Néerlandais mordent. L'Indochine, c'est là où les Français mordent. Mais au fond, la grande masse du continent de l'Eurasie, n'est pas colonisée. Elle reste entre les mains d'Eurasiens, avec des régimes différents, avec des différences historiques, avec des moments de crise, des moments de croissance et de prospérité. Parce qu'il faut voir que quand Timur Lang crée la capitale de son État, donc à Samarcande, il crée une civilisation très remarquable. Vous avez peut-être connaissance, vous avez mémoire des monuments et des mosquées de Samarcande. On a affaire à un art très très avancé. Est remarquable, et donc on a affaire à une zone de civilisation importante. Cette zone donc du cœur de l'habitat humain sur la planète fait l'objet de convoitises. Et l'objet de convoitises à telle enseigne que vous savez qu'il y a eu, avant la guerre d'Afghanistan, dont on a vu un épisode qui vient de s'achever, il y a eu d'autres guerres pour l'Afghanistan, considérées comme un des points importants de ce milieu de continent. La guerre se passait d'ailleurs entre la Russie tsariste et l'impérialisme britannique. L'impérialisme britannique arrivant par la mer, par le sud, et la Russie tsariste arrivant par le nord. Ça s'est retrouvé au moment des djihadistes et des premiers talibans. Enfin, tout ça est connu, mais au fond, il n'y a pas eu possibilité, les Européens et les États-Unis qui font suite n'ont pas eu la capacité de prendre pied et de s'installer durablement au milieu de cette énorme masse terrestre. Et l'Europe n'est après tout qu'un petit morceau, et c'est là-dessus que je voulais insister. Alors dans ce petit morceau, qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'on a dit « la limite est là », on s'organise. On s'organise, mais on ne s'organise pas de son propre chef. Puisque je rappelle que jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, l'extrémité ouest de l'Eurasie, donc ce que nous appelons nous couramment l'Europe, est un endroit extrêmement agité. Extrêmement agité, puisque, je vous rappelle, la guerre de 70, la guerre de 14, la guerre de 45, ce sont des guerres nées entre Européens sur le sol de l'Europe de l'Ouest. Ça se termine assez mal pour les uns et pour les autres, puisqu'au fond, il y a quelque part deux puissances qui vont intervenir, l'une depuis l'Est, l'autre depuis l'Ouest, pour arrêter le massacre. Alors, une qui va intervenir profondément en s'y impliquant avec beaucoup, beaucoup de violence, de capacité et une volonté de combattre qui est l'URSS de l'époque. Et puis l'autre qui va arriver un peu, je ne dis pas après la bataille, mais quand même très tardivement dans le conflit pour assurer une prise sur le continent, sur ce morceau-là du continent. Et au fond, ce sur quoi je veux insister, c'est que l'Europe telle qu'elle s'est développée, et je vais faire un passage là-dessus, l'Europe institutionnelle telle que nous la connaissons et telle qu'on nous la présente dans les livres, dans les conférences ou même dans les discours politiques, est une création volontaire des États-Unis. C'est-à-dire, c'est la prise de possession par les États-Unis. Alors, prise de possession, ce n'est pas une colonie, je vais revenir aux mécanismes qui sont en jeu, mais c'est une prise de possession, c'est une prise de contrôle, plus exactement, des États-Unis sur une partie de leur Asie. Alors, pourquoi ils font cette politique-là? C'est qu'ils se sont aperçus, avec le résultat, c'est-à-dire ils se sont aperçus que la puissance centrale, je veux parler de l'URSS, avait réussi d'une part à se débarrasser de son adversaire nazi et qu'elle avait donc gagné de l'influence sur une large partie du territoire de l'Eurasie. Hein, je veux parler de ce qu'on appelle les démocraties populaires. Et donc à ce moment-là, les États-Unis disent il faut que nous installions une protection car ils voient arriver le moment où la totalité de l'Eurasie leur échappera. Et donc ils se font une espèce de film inquiétant en disant l'URSS qui a déjà envoyé des troupes, qui a libéré des territoires qui sont les territoires que vous connaissez, donc de la Hongrie, de la République tchèque, de la Pologne, de la Bulgarie, ils risquent de continuer. On n'est pas, alors ça c'est la vision donc impérialiste telle qu'elle est conçue aux États-Unis. Et puis ils disent, s'ils continuent, de toute façon, ils vont avoir la maîtrise totale de cette énorme Eurasie, et nous, on sera en culotte courte. On sera une petite puissance, une espèce de grande île au large du côté de l'Atlantique, mais les affaires sérieuses du monde ne seront pas entre nous. Je rappelle, les affaires sérieuses du monde, à la date d'aujourd'hui, c'est 60% de la population, c'est la majorité des terres émergées, c'est tout ça. Ça, c'est le point de départ de l'action des États-Unis, donc on est en 1945-46. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Il faut s'installer sur ce petit bout de continent. Alors, ce qu'ils ont entre les... ce qu'ils gouvernent, ce qu'ils maîtrisent en 1945, les États-Unis, c'est la France, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, la Belgique, l'Italie et l'Allemagne. C'est tout. Ils vont dire, ils vont pas le dire, mais ils vont le faire, et c'est la même chose. Ils vont le dire, il y aura des écrits théoriques qui le diront. Ils vont dire, là, on va être dans une zone qui va être dépendante de chez nous. Alors, elle va être dépendante d'abord parce qu'on va laisser, et la France fait exception, mais elle est la seule à faire exception, on va laisser des troupes là où on a gagné notre morceau de la guerre, donc en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Belgique, etc. Elles y sont encore. Et puis, on va essayer de réunir tous ces gens-là. Alors, c'est un peu difficile parce qu'il y a quand même eu trois guerres mondiales, enfin deux guerres européennes et puis deux guerres mondiales qui ont pris naissance à cet endroit-là du globe. Mais l'idée, c'est de dire on va les obliger à travailler ensemble sous notre contrôle. Donc, il ne s'agit pas de colonisation, il s'agit bien d'une espèce de tutelle politico-militaire sur ce morceau de continent, pour que l'URSS ne prenne pas le reste. Alors l'URSS, c'est d'abord l'URSS, et puis c'est le socialisme. C'est-à-dire qu'on a là un conflit qui est double, c'est un conflit géopolitique, c'est-à-dire la maîtrise d'un espace, et un conflit de doctrine politique, c'est-à-dire que les États-Unis défendent non seulement des territoires, mais ils défendent l'économie de marché, et ils défendent le chiffre d'affaires des multinationales des États-Unis. Ça, on est en 45-46. Et ça va très très vite, ce dispositif. Et je vais vous donner des indications sur les personnes qui ont mis ça en route. Je veux parler alors d'un certain Winston Churchill. Je cherche mes notes. Winston Churchill qui, à un moment donné, s'est signalé très très vite. On est en 1946. Et de Winston Churchill, donc, qui a perdu le pouvoir en Angleterre après avoir été au pouvoir pendant toute la guerre, mais qui quand même fait partie des grands vainqueurs et des stratèges de la victoire. Et c'est lui qui a fait venir, enfin, qui a tenu l'alliance, parce qu'il faut savoir que pendant le courant de la guerre, dans le creux de la défaite en cours du nazisme et du Reich, Winston Churchill, qui est un monsieur très conservateur, très réactionnaire, mais un colonisateur dans l'âme, va faire des sourires, beaucoup de sourires à l'URSS, en disant que de toute façon, pour se débarrasser du nazisme, il faut que l'URSS soit dans le jeu. Et l'URSS va prendre toute sa place, et même bien au-delà de sa place, puisque vous savez que pour l'URSS, ça veut dire 20 ou 25 millions de morts, un territoire en partie dévasté, au moins dans la partie ouest. Mais là aussi, la géographie parle, c'est-à-dire que si l'URSS a résisté à l'assaut hitlérien, c'est parce que l'URSS avait la profondeur géographique. C'est-à-dire que tout ce qui a été détruit, disons, depuis la frontière polonaise actuelle jusqu'à, pas tout à fait l'Oural, mais vous savez que Stalingrad, ça se place sur la vallée de la Volga, et donc tout ce qui a été détruit là, dans cet espace européen de l'URSS, n'a pas suffi pour que l'URSS disparaisse et capitule, puisqu'effectivement l'URSS a pu se replier ses industries, ses populations, sur la partie qu'on dirait asiatique de son territoire. Cette profondeur donc géographique a permis à l'URSS d'abord de résister et puis ensuite de contre-attaquer. C'est ce qui s'est passé, vous le savez, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc Churchill, après avoir été donc très conscient de l'intervention absolument décisive de l'URSS pour se débarrasser du nazisme, alors le nazisme, il faut le voir pour ce que c'est un régime raciste épouvantable, mais c'est aussi un concurrent économique des États-Unis et de la Grande-Bretagne. Et donc, double avantage de détruire le Reich nazi, c'est de l'éliminer un concurrent, de le faire beaucoup souffrir, et de lui couper les ailes jusqu'à la fin des temps, en disant, maintenant tu as compris, tu as fait deux guerres mondiales, tu perds à chaque fois, de toute façon, tu as perdu tes colonies, tu n'as pas de ressources naturelles, peu de minerais, pas de pétrole, etc. Donc de toute façon, tu ne peux pas avoir la politique dominatrice dont tu as rêvé. Donc c'est pour ça que le rêve s'est transformé en espèce d'horreur racialiste et tout, parce qu'il n'y avait pas de fondement raisonnable, matériel, à la domination du Reich allemand, qui était trop fort. Donc ce Reich allemand, on le met de côté. Mais donc, j'insiste là-dessus, donc Churchill, qui est bien conscient que ça y est, on a réglé la question du Reich allemand, mais dit que maintenant, l'adversaire qui était notre ami l'année dernière, c'est l'URSS. C'est l'URSS, d'abord parce qu'elle est arrivée jusqu'à Berlin, elle est arrivée jusqu'à Prague, elle est arrivée jusqu'à Budapest, etc. Et donc, c'est notre adversaire. Et ça va se faire en deux temps, et je m'arrête sur ces temps de l'année 1946. En 1946, Churchill va faire deux discours. Il va faire un premier discours sur ce qui s'appelle le discours de Fulton. Discours de Fulton, donc Fulton, c'est une université américaine, où il dit que désormais, il faut se méfier de l'URSS. Alors, l'année dernière, c'était nos amis. Ils nous ont aidés à liquider les nazis. Mais c'est terminé. Maintenant, ils sont menaçants. Et donc, il faut se méfier de eux. Et dans ce discours de Fulton, il dit qu'en fait, l'avenir du monde est entre les mains des puissances anglo-saxonnes, donc des gens qui parlent anglais. Ce qui veut dire entre les mains de l'ancien empire un peu déclinant qui est l'empire britannique et les mains des États-Unis qui est le nouveau chef de l'empire anglo-saxon. Et par sa victoire, conforté par le fait qu'il est à ce moment-là beaucoup plus peuplé, que son industrie est très en avance. Et donc le discours de Fulton de Churchill annonce la coupure du continent eurasiatique en deux morceaux. Un tout petit morceau à l'ouest qui est sous le contrôle des États-Unis et de la Grande-Bretagne, donc je l'ai dit, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, la France, l'Italie, et le gros du continent qui est entre les mains de l'URSS et de ses alliés de l'époque. Ça, c'est la première donnée. Donc, il va affirmer très, très clairement quelle est la vision anglo-saxonne du monde. Et la même année, on est au mois de septembre 1946, Churchill prononce un discours à Zurich dans lequel il parle des États-Unis d'Europe. Donc, vous voyez, clin d'œil sémantique, États-Unis, donc on fait référence à la puissance nouvelle et reconnue des États-Unis dans la domination mondiale, mais les États-Unis d'Europe, c'est-à-dire qu'on va organiser la zone contrôlée par les États-Unis et par la Grande-Bretagne pour qu'il n'y ait plus de guerre entre tous ces gens-là et pour leur donner une unité militaire, stratégique, etc. Ça, c'est le discours donc, de Zurich, qui est du 19 septembre 1946, et qui va déboucher, qui va déboucher en 1949 sur un traité, le traité de Londres, qui met en forme, très concrètement, cette espèce d'alliance, cette espèce de semi-colonisation états-unienne d'une partie, la partie la plus occidentale de l'Europe. Quels sont les pays ? Alors c'est là que ça devient intéressant, cette construction, parce qu'on est donc à partir de 46, on est en 49 quand le traité de Londres est signé. Qui vont adhérer au traité de Londres ? Alors je vous les donne dans l'ordre. La Belgique, le Danemark, la France, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Norvège, la Suède et bien entendu le Royaume-Uni. Vous savez qu'on est, vous voyez très nettement, qu'on est uniquement sur la partie ouest du continent eurasiatique. Tout ça va donc se prendre la forme d'une espèce de traité militaire, et ça va prendre une deuxième forme qu'on nous présente comme la grande invention de l'Europe. Alors il faut voir que l'invention de l'Europe, c'est-à-dire la communauté européenne du charbon de l'acier de 1953, le marché commun de 1959, l'Euratom de la même année, tout ça fait partie de l'organisation de la colonisation anglo-saxonne sur le continent européen. Que tout ça fonctionne ensemble. Alors pourquoi on mélange par exemple le charbon et l'acier dans l'affaire ? On se dit, la France et l'Allemagne en particulier se sont beaucoup affrontées pour la question de la possession des mines de charbon, les mines de la Roure, des choses comme ça. Et donc on va les mettre autour d'une table, on va dire qu'ils ont un accord pour partager la production, pour ne pas casser les prix l'un l'autre, pour plus se faire concurrence. Et donc on va éliminer un des principaux motifs de l'affrontement guerrier entre la France et l'Allemagne. C'est ça la communauté européenne du charbon et de l'acier. Et puis, on va introduire petit à petit là-dedans des idées plus générales sur l'objectif de cette semi-colonie européenne, qui est donc une création des États-Unis sur une idée de Winston Churchill, pour maintenir tout ça ensemble et pour qu'il y ait une espèce d'unité qui est tenue par la tutelle et par la surveillance permanente des États-Unis. Qui s'adjoint le fait que la puissance matérielle, industrielle des États-Unis fait que les États-Unis sont en capacité donc d'alimenter ce marché européen dans des pays qui ont été ravagés par la guerre avec toute une série de produits nouveaux. Des témoignages de gens très âgés qui m'ont dit, pour nous, des gens à la campagne en France, et pour nous, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est l'arrivée des tracteurs dans les champs. Des tracteurs qui sont tous des tracteurs fabriqués aux États-Unis. Il y a d'autres modes, il y a les banilons, il y a des tas de choses symboliques et pas que symboliques, mais en fait, on a une vraie tutelle et un énorme marché qui s'ouvre, donc à coup de dollars et à coup d'alliances politiques, un énorme marché qui s'ouvre à l'industrie des États-Unis. C'est le fameux plan Marshall. Et donc là, on a organisation du morceau états-unien d'Europe. C'est le début. C'est le début, donc 53, je vous l'ai dit, CECA, ensuite on arrive à traité de Rome 57, la création du marché commun en 59, et ça ne va pas s'arrêter. Ça ne va pas s'arrêter, mais ça mérite d'être commenté parce que il y a quelqu'un qui avait tout à fait vu ce qui était en cours, c'était un certain Joseph Staline. Alors, Joseph Staline, après que Churchill ait prononcé son discours à Zurich au mois de septembre 1946, est interviewé par la Pravda. Et voilà ce qu'il dit. Il dit « Il me semble que M. Churchill pipe ouvertement les dés. Les attaques de M. Churchill contre l'Union soviétique à propos de l'extension des frontières occidentales de la Pologne grâce à la reprise des territoires anciennement pris par l'Allemagne à la Pologne, M. Churchill plaider, ça veut dire il ment. Comme on le sait, la décision relative aux frontières occidentales de la Pologne a été adoptée à la conférence de Berlin, des trois puissances, hein, je rappelle, les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'URSS, sur la base des demandes polonaises. L'Union soviétique a déclaré à plusieurs reprises qu'elle considérait ces demandes comme justes et équitables. Il est tout à fait probable que M. Churchill n'est pas content de cette décision. Mais pourquoi M. Churchill, sans ménager ses flèches contre la position du Russe dans cette question, cache-t-il à ses auditeurs le fait que cette décision a été prise à l'unanimité de la conférence de Berlin et qu'elle a été votée non seulement par les Russes, mais également par les Britanniques et les Américains ? Pourquoi M. Churchill a-t-il eu besoin d'induire en erreur ses auditeurs ? M. Churchill affirme plus loin : Les partis communistes étaient très faibles dans tous ces États d'Europe orientale qu'ils ont acquis une force extraordinaire, dépassant de beaucoup leur importance en effectif, et qu'ils s'efforcent d'instaurer partout un contrôle totalitaire que des gouvernements policiers dominent dans presque tous ces pays, et qu'à l'heure actuelle, il n'y existe aucune démocratie véritable, exception faite pour la Tchécoslovaquie. Donc, ce qu'il affirme là, et il va le dire un peu plus loin, M. Churchill, en fait, est en train d'installer donc la division de l'Europe sur la base donc à la fois d'une concurrence stratégique, géopolitique et économique. Et il va tenir quelques propos très, très clairs sur les rapports entre le nazisme et le soviétisme. Il dit... Monsieur Churchill se trouve actuellement dans la position d'un fauteur de guerre et il ne s'y trouve pas seul. Il a des amis, non seulement en Angleterre, mais également aux États-Unis. Il est à remarquer que sous ce rapport, Monsieur Churchill et ses amis rappellent d'une façon étonnante Hitler et ses amis. Hitler a commencé la préparation à la guerre par sa proclamation d'une théorie raciale, où il déclarait que seules les personnes de langue allemande représentaient une nation véritable au sens complet du mot. M. Churchill également commence la préparation à la guerre par une théorie raciale, en affirmant que seules les nations de langue anglaise sont des nations dans toute l'acception du mot, c'est mot à mot dans le discours de Fulton, appelées à diriger les destinées du monde entier. La théorie raciale allemande amena Hitler et ses amis à conclure que les Allemands, en tant qu'unique nation véritable, entre guillemets bien sûr, devaient commander aux autres nations. La théorie raciale anglaise amène M. Churchill et ses amis à cette conclusion que les nations de langue anglaise, en tant que seules véritables, toujours entre guillemets, doivent régner sur les autres nations du monde. En fait, et je m'en tiendrai à ça parce que l'interview est beaucoup plus dense et plus complète que ça, en fait, M. Churchill et ses amis, en Angleterre et aux États-Unis, présentent aux nations ne parlant pas anglais quelque chose comme un ultimatum. Reconnaissez de bon gré notre domination et alors tout ira bien. Dans le cas contraire, la guerre est inévitable. Alors donc voilà, là, Staline est parfaitement clair. On est donc au mois de l'automne 1946 et tous les événements qui vont suivre vont confirmer la justesse de son analyse. C'est-à-dire que tout ce dont nous avons été témoins dans nos existences, là où nous habitons, dans la République française, tout montre que les États-Unis, après cette première tête de pont qu'ils ont installée avec la complicité britannique sur la partie ouest de l'Eurasie, vont passer leur temps à essayer de progresser pour aller jusqu'au cœur du fameux continent eurasiatique et surtout pour faire reculer l'URSS et maintenant... C'est l'actualité de maintenant, pour faire reculer éventuellement la Russie. Alors, je passe sur toute une série d'étapes, mais elles sont connues. Donc, c'est la progression donc, de l'Union européenne. Je vais donner quelques dates, mais vous les connaissez. Et puis, ce qui s'est passé aussi, c'est que dans le même temps où ils avaient ces ambitions politiques, ils se donnaient des outils pour avancer donc, dans la reconquête, qui était ce qu'on appelle le Conseil de l'Europe. Alors je m'arrête un petit moment là-dessus, parce que c'est moins connu, puis il y a souvent une confusion dans la tête des auditeurs français ou des citoyens français entre l'Union européenne et le Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe, c'est beaucoup, beaucoup plus large que l'Union européenne, puisqu'il y a 47 États qui en sont membres aujourd'hui, avec à peu près 830 millions d'habitants. Mais ce Conseil de l'Europe est en fait le fruit de ce fameux traité de Londres de 5 mai 1949, il est très habile puisqu'au fond, il est dit que d'un côté, il y a la pression militaire, c'est-à-dire les troupes des États-Unis sur le sol de l'Allemagne, de l'Italie, de la Grande-Bretagne aussi, la Belgique et des Pays-Bas. Et puis, il faut en même temps avoir un programme politique, c'est-à-dire l'occupation militaire ne suffit pas. Et le programme politique, c'est le libre marché, la concurrence, et on habille ça avec les droits de l'homme et la démocratie. On exclut totalement des compétences du Conseil de l'Europe les questions militaires de stratégie, puisque là, elles sont entre les mains des États-Unis et elles sont entre les mains d'un organisme qui est créé presque au même moment, qui est l'OTAN, le traité de l'Atlantique Nord, qui va déboucher sur une structure qui existe toujours, qui est l'OTAN. Mais donc, on a là une double action politique. il y a l'action stratégique des militaires sous la conduite des États-Unis qui maîtrisent totalement le dispositif de l'OTAN. Et puis ce Conseil de l'Europe est là pour donner un emballage idéologique à cette semi-colonisation de l'Europe occidentale par les États-Unis, et donc qui est ce traité de Londres, avec la création donc d'un discours, enfin même d'un outil qui s'appelle la Convention européenne des droits de l'homme et la Cour européenne des droits de l'homme. Alors aujourd'hui, il arrive qu'on trouve des citoyens français ou des associations françaises qui portent plainte auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Ils le font effectivement en application de cette convention et en utilisant cette cour, parce que ça donne des droits qui ne sont pas nécessairement reconnus par d'autres pays ou dans les législations nationales. Ça, c'était donc l'aspect idéologico-politique de la reconquête de l'Europe. Ça permet, dans la mesure où c'est idéologico-politique, d'avoir un discours beaucoup plus général. Mais au fond, quand je vous donne la liste des pays qui sont membres fondateurs du Conseil de l'Europe, vous allez voir qu'on retrouve exactement les mêmes. C'est-à-dire, je vous les donne dans l'ordre, la Belgique, le Danemark, la France, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Norvège, la Suède et le Royaume-Uni. Donc on a bien la frange occidentale de l'Eurasie qui est là. Alors bien entendu, ce n'est pas suffisant, ça c'est ce qui se fait en 1949, et puis après il va falloir aller un peu plus loin. Parce que ce qu'il faut bien voir, et ce sur quoi je ne peux pas ne pas m'arrêter d'insister, c'est que depuis 1945, les États-Unis à aucun moment n'ont abandonné l'idée de se rapprocher le plus possible de la frontière de la Russie. C'était l'URSS, elle est devenue la Russie. Et d'avoir, de manifester leur ambition, une ambition que j'explique parce que j'en viens un petit peu au cœur de cette problématique géopolitique. C'est-à-dire, vu par les États-Unis, pays de 8 millions de kilomètres carrés, donc de la taille, à peu près la même taille que le Canada et la Chine de l'autre côté, l'URSS et encore aujourd'hui la Russie, c'est un pays trop grand. C'est un pays trop grand qui fait de l'ombre à la puissance dominante. Et de l'ombre, parce que la Russie d'aujourd'hui, c'est deux fois la surface des États-Unis d'Amérique. Quand il y avait l'URSS intégrale, c'était encore plus que ça. C'est deux fois, donc c'est la taille, c'est les capacités, c'est la quantité de terres arables, c'est les ressources naturelles en quantité extraordinaire, des minerais, du pétrole, du gaz, etc. Je m'éloigne un petit peu du micro, pardon. Et donc, il faut bien voir, et c'est là-dessus que j'insiste, qu'à aucun moment depuis 1945, les États-Unis n'ont abandonné l'idée de mordre dans la chair de l'Eurasie. Alors, ils l'avaient fait, je le rappelle, la première tentative, c'était au moment de ce qu'on appelait la guerre civile dans les débuts de l'URSS, après la révolution bolchevique. Je rappelle qu'il y a des troupes de 17 États qui viennent s'inviter au festin colonial, si j'ose dire, sur le territoire de la Russie nouvelle et de l'URSS nouvelle, et que les États-Unis sont très, très preneurs et très actifs dans cette tentative de conquête de la Russie soviétique, et qu'ils ont des troupes, surtout du côté donc, de l'Orient, du côté du Japon, qui vont participer à la guerre civile russe en étant contre les Rouges pour les Blancs. Donc ça a commencé à ce moment-là. L'inquiétude, elle démarre, c'est-à-dire que la création de ce pays, de ce très très vaste pays, donc deux fois plus grand que les États-Unis, qui, à l'époque, quand on est en 21, l'URSS économique ne fait peur à personne, parce qu'elle est dans un tel état de délabrement à cause de la guerre civile, elle est en retard dans son développement industriel, elle ne fait pas peur. Mais pour les États-Unis, qui ont déjà cette idée-là, ils l'ont écrit, c'est pas moi qui l'invente, qui ont déjà la volonté de dominer le monde, il y a là un obstacle, un morceau trop grand, quelque chose trop difficile à digérer. Il faut absolument que ça soit découpé en petits morceaux, que les firmes des États-Unis s'approprient les ressources naturelles et tout. Mais ce n'est pas possible parce qu'il y a là un obstacle qui, je vous dis, en 1921, ce n'est pas un obstacle bien important, ça pèse pas lourd l'économie soviétique à l'époque, l'industrie soviétique non plus, les exploitations minières vont débuter. Le problème, c'est que cette transformation, la mutation de l'URSS entre l'année 21 et l'année 1940 ou 41, quand débute la Deuxième Guerre mondiale, enfin au moins l'invasion par le Reich de l'URSS, la mutation industrielle est fantastique. Et fantastique, c'est-à-dire qu'on a, en quelques années, enfin en deux décennies, la deuxième puissance industrielle mondiale qui s'est installée. Elle en a la capacité, elle en a les ressources naturelles, et elle en a, et ça c'est l'énergie révolutionnaire qui s'est transformée et qui a produit ça, c'est-à-dire la capacité de trouver un pays arriéré, divisé en un pays puissant, qui va tenir le choc de l'invasion du Reich. C'est tout à fait important de s'en rendre compte. Et à partir de ce moment-là, et Churchill ne fait dans son discours de Londres et dans le discours de Fulton qu'entériner le fait que c'était bien beau d'avoir Staline du bon côté des amis au moment où il fallait détruire Hitler et ses folies, mais maintenant on a affaire, le vrai concurrent c'est lui. Le vrai concurrent c'est lui, il est concurrent au point de vue économique, il est concurrent au niveau stratégique et il est concurrent au niveau même politique à l'époque, puisqu'il y a un projet social, qu'il appelle le socialisme, qui est un projet alternatif et qui est un projet contradictoire avec le projet libéral des États-Unis et de la Grande-Bretagne. C'est dans ce cadre qu'il faut situer la réflexion qu'on doit avoir sur l'Europe, c'est-à-dire que les outils qui sont mis en place, organisation, structuration de l'espace économique avec la communauté européenne, organisation de l'espace militaire dans l'OTAN, c'est-à-dire que les États-Unis sont à la tête d'une organisation dans laquelle les pays européens sont des alliés très obéissants, puisque toutes les décisions sont prises à l'unanimité et qu'en pratique, c'est les États-Unis qui gouvernent la politique militaire de l'Europe. C'est vrai même, alors on sait, j'insiste là-dessus parce que ça se dit, et il y a du vrai, on sait que la France tentera une espèce de prise de distance par rapport à cette domination des États-Unis. C'est-à-dire, vous vous souvenez, c'est le moment où De Gaulle, donc on est en 64 ou 5, je ne sais plus, c'est le moment où De Gaulle chasse les troupes américaines du sol de la République française, mais pour autant, il ne quitte pas le traité. C'est-à-dire, il dit, nous sommes alliés, mais nous avons une certaine autonomie militaire. Ça, c'est ce qui lui est permis par le fait qu'il existe encore des colonies françaises et que De Gaulle parle encore en chef d'empire. Et donc, ça lui donne une place que les autres n'ont pas. Mais retenons bien cette idée. Petit à petit, la croissance va se faire sur une espèce de rapprochement, puisque c'est ça l'idée directrice et celle-là qui me paraît tout à fait intéressante, que les États-Unis et leurs alliés de l'Europe de l'Ouest et leurs affidés, j'allais dire, leurs clients, leurs régimes vassaux ou vassalisés d'une façon ou d'une autre, se rapprochaient le plus possible du cœur de l'Eurasie et se rapprochaient le plus possible de cette Russie, soviétique d'abord et désoviétisée après, qui leur fait de l'ombre et qui n'arrêtera pas de leur faire de l'ombre. Et c'est ce qui va expliquer la croissance de l'Europe dans les institutions que nous connaissons. Marché commun, Union européenne et tout. Je donne une idée parce qu'on ne se souvient pas, mais la CECA et le marché commun, c'est 6 États. En 1973, je donne quelques étapes, rentrent le Royaume-Uni, l'Irlande et le Danemark. Alors une petite particularité, j'y reviendrai peut-être à d'autres occasions, on fait rentrer l'Irlande parce qu'il est difficile de couper l'Irlande en deux, mais l'Irlande républicaine n'est pas dans l'OTAN et elle n'y rentrera jamais. Mais les États-Unis considèrent que l'essentiel, c'est que tout le monde vienne dans l'OTAN. Européenne, ça devient secondaire et puis l'Irlande ne pèse pas si lourd. En 1980, on fait rentrer la Grèce. En 1986, on fait rentrer l'Espagne et le Portugal. Alors pourquoi ils ont tardé? C'est qu'effectivement, il y avait là deux dictatures militaires, la dictature de Salazar d'un côté, de Franco de l'autre, et qu'il fallait quand même laisser passer ce moment de la chute des dictateurs et intégrer l'Espagne et le Portugal dans le colonisation, disons, dans la soumission aux intérêts des États-Unis. Alors, ça traîne un peu parce qu'on est en 86 et quand même, il faut savoir que le gouvernement de la République portugaise a été, la dictature Salazar, finie en 74 et qu'il faut quand même attendre, vous voyez, 12 ans pour que le Portugal intègre l'Europe communautaire. Alors, pourquoi? Pourquoi tout simplement? C'est intéressant de s'arrêter sur ce cas portugais. Tout simplement parce que le Portugal qui se décolonise et qui fait sa révolution en 1974 est un Portugal qui, au moins pendant les 2-3 premières années de la Nouvelle République, hésite à quitter l'OTAN, voire hésite à rallier le camp atlantique. Et on sait qu'un des motifs, les interventions des États-Unis seront extrêmement fortes au niveau diplomatique, au niveau des services de renseignement, etc., pour éviter ce basculement. Le basculement, il était à l'ordre du jour, puisque les militaires qui avait fait la révolution des œillets, donc la révolution de 1974, l'avait fait sur la base d'une volonté de sortir de la colonisation portugaise. Et il l'avait fait parce qu'ils prenaient exemple et ils étaient inspirés. Beaucoup avaient été formés même dans les écoles militaires de l'URSS. Ils voulaient donc sortir du système colonial et ils considéraient à juste titre que les États-Unis étaient favorables au système colonial. Ils le sont toujours, même s'ils n'exercent pas la colonisation comme à l'européenne, mais qu'ils exercent d'autres formes de domination qui ne sont pas moindres. Ensuite, on arrive en 1995. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre 1986 et 1995? Il s'est passé que l'URSS disparaît. Et là, donc, ça permet de grignoter encore vers l'Ouest. Donc, des pays qui étaient neutres, je les cite, hein, l'Autriche, la Finlande et la Suède, vont pouvoir être intégrés à l'Union européenne, puisqu'ils étaient neutres, en particulier, je pense, à la Finlande et à l'Autriche. À l'Autriche, pour des raisons liées aux accords de fin de Deuxième Guerre mondiale. La Finlande, pour des raisons de voisinage, à des milliers de kilomètres communs avec l'URSS, ces pays neutres peuvent rentrer puisqu'au fond, il n'y a plus d'adversaires. Mais là encore, vous voyez, la progression se fait vers l'ouest. Hein. Et quand on est en Finlande, on est tout près de la frontière russe. Et puis la cavalcade, j'allais dire, la chevauchée fantastique de l'Europe américaine continue et on arrive en 2004. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre 1995 et 2004? Alors, on a eu une période où la Russie était d'abord de 1990 à 2000, en gros, la Russie ne maîtrise absolument rien de son avenir. La population diminue, les situations de crise sociale, morale, économique totale, qui fait que la Russie pouvait même, à cette époque-là, disparaître, et je pense que si elle avait disparu à ce moment-là, elle aurait comblé les vœux des impérialistes états-uniens, puisqu'au fond, c'est ce qu'ils veulent depuis le départ. Ce pays est trop grand, trop riche, a trop de ressources naturelles, il nous fait de l'ombre. Donc il ne faut pas qu'il grossisse. Mais autant, ça reste vrai, mais quand même, ils vont quand même essayer de faire rentrer de nouveaux membres dans l'Europe. L'Europe américaine. Ces nouveaux membres, c'est des pays donc, qui ont été des pays socialistes, donc qui étaient dans la sphère soviétique, mais que l'affaiblissement, l'écroulement, la fermeture de l'URSS et la faiblesse de la Russie jusqu'aux années 2000, en gros, fait que, après tout, tous ces pays-là vont aller là où il fait chaud, où il y a du feu, j'allais dire pour faire simple. Et donc, on voit rentrer en 2004 Chypre, les trois États baltes, donc Estonie, Lettonie, Lituanie, la Hongrie, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la Slovénie. On est à 25. Vous voyez qu'on a démarré à 6 en 1959, on est à 25 en 2004. Et en même temps que le mouvement numérique, vous voyez que le mouvement vers l'Est ne se démentit jamais. Quand on arrive à la Pologne, on est à la limite des frontières soviétiques. Les trois États baltes, on est à la frontière de la Russie. Slovéniste un peu à part, je vais dire un mot là-dessus. Cette Europe-là va encore grossir. Alors elle le fait parce qu'on ne prend pas tous les pays au moment où on en a besoin, mais on le fait à partir du moment où ils ont quand même un petit peu modifié leur système politique, où ils ont fait un certain nombre de progrès. Il y a des règles pour rentrer dans l'Union européenne, mais retenez qu'en 2007 vont finalement rentrer la Bulgarie et la Roumanie, c'est-à-dire à la date de 2007, il ne reste plus rien du bloc de l'Est, et ce qu'on appelait les démocraties populaires. C'est fini. Tout est tombé dans l'escarcelle de l'impérialisme dominant. Il va s'ajouter en 2013 encore un nouveau venu, la Croatie. Alors je m'arrête un petit peu sur la Croatie, parce que déjà en 2004, il était rentré la Slovénie, en 2013, il était rentré la Croatie. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors la Slovénie et la Croatie, ce sont deux morceaux de l'ancienne Yougoslavie, qui, vous le savez, donc a été démantelé par une intervention de l'Ouest, en particulier de l'Allemagne, soutenue par les États-Unis. Et il faut savoir que l'éclatement de la Yougoslavie... Alors, la Yougoslavie, c'est physiquement, vous allez dire, c'est en Europe, hein, c'est calé entre la Grèce, l'Italie et l'Allemagne. Ben oui, mais le problème, c'est que c'est un endroit très particulier où les Américains n'ont pas réussi à avancer comme ils le voulaient. Ils n'ont tellement pas réussi avancer comme ils le voulaient, qu'ils ont d'une part confié à l'Allemagne le soin de mettre des ordres, ils ont confié ainsi un peu au Vatican en utilisant un conflit religieux entre orthodoxes et catholiques, Et à un moment donné, ils vont dire, il faut que ce pays des Slaves du Sud, c'est ça que ça veut dire Yougoslavie, disparaissent parce qu'ils ne sont pas prêts à rentrer dans l'Europe, ils ne sont pas prêts à passer sous tutelle américaine. Donc si on le coupe en petits morceaux, on va les prendre les uns après les autres. Premier, la Slovénie en premier, la Croatie un peu plus tard en 2013. Ça s'est fait à un coût extraordinaire. Alors quand on, et je m'arrête là-dessus, parce que quand on vous dit cette Europe nouvelle, donc cette Europe des traités, de Rome, de Maastricht, etc., est une Europe pacifique, ça mérite d'être tempéré. Parce que cette Europe pacifique a bombardé la Syrie, elle a tué des milliers de Serbes, elle a cassé ce pays physiquement. Hein. C'était pas, il n'y avait pas que des avions américains, il y avait des avions italiens, il y avait des avions français qui jetaient des bombes sur un pays qui est en Europe. Alors souvenez-vous, l'ineffable Bernard-Henri Lévy disant à 2 heures de vol de Paris, ben, à 2 heures de vol de Paris, on est physiquement en Europe, mais ces pays-là n'étaient pas considérés comme européens. D'ailleurs, ils ne sont pas. Puisque les morceaux, aujourd'hui, à la date où on est, les morceaux de l'ex-Yougoslavie ne sont pas tous rentrés dans l'Union européenne. Il n'y en a que deux, la Slovénie et la Croatie. Pour les autres, le doute est permis. Mais ce qui se passe, c'est que parallèlement, et ça, c'est l'évolution claire depuis la chute de l'URSS, c'est que les entrées dans l'Union européenne sont corrélées avec les entrées à l'OTAN. Et à la limite même, c'est l'adhésion à l'OTAN qui est l'espèce de clé, la porte d'entrée à l'Union européenne, c'est de passer par l'OTAN. Ce qui existait avant, c'est-à-dire que des États comme, je l'ai dit, l'Autriche, la Finlande, l'Irlande, qui n'étaient pas dans l'OTAN, étaient quand même admis dans le sein des saints européens, c'est différent, c'est-à-dire que la nouvelle génération, donc les 2004, les 2007, la suite, s'il y en a, tout cela rentre dans l'OTAN avant de rentrer dans l'Union européenne. C'est-à-dire que c'est la clé d'entrée, c'est le passeport pour rentrer dans l'Union européenne. Il faut d'abord être dans l'Alliance américaine. Et que là encore, alors l'Europe, c'est compliqué à mettre en place l'Europe. L'Europe met des gants, pose des conditions, il faut ceci, il faut cela. Au fond, ce qui importe aux États-Unis, et c'est là-dessus que j'insiste, ce qui importe aux États-Unis, c'est que tous ces pays-là soient dans l'Alliance que les États-Unis dominent et qu'ils soient le plus près possible de la frontière russe. Alors, une exception, il faut le dire quand même, la Suisse, qui est incontestablement un pays d'Europe, n'est rentrée dans rien du tout. Alors, elle a eu pour d'autres raisons, mais elle n'a pas voulu faire partie de ça, mais enfin, il n'y en a pas eu besoin, puisque d'abord, elle est petite, elle rend d'autres services en matière d'échanges financiers et monétaires, mais elle est restée à l'écart. La Yougoslavie, je le dis, donc la Yougoslavie, détruite par l'Europe, et la Suisse qui continue sa vie isolée. Alors, je vous ai parlé d'un côté du Conseil de l'Europe et donc l'Union européenne, toutes les institutions que vous connaissez. Je reviens un petit peu sur le Conseil de l'Europe parce que je vous rappelle que quand il est créé, donc il recoupe à peu près les frontières du marché commun et de l'Union européenne. Peut-être la Norvège qui ne fait pas partie de l'Union européenne. Mais ce qui va se passer, c'est qu'à partir de 1989, donc là, dans les débuts de la désoviétisation, au moment où Gorbatchev décide, l'URSS décide de se retirer d'Allemagne, la voie est libre pour faire rentrer au Conseil de l'Europe les pays orientaux, d'Europe orientale. Donc la Pologne y rentre et la Russie va poser question parce qu'il faut bien comprendre qu'à partir de la chute de l'URSS, et déjà au moment où les troupes soviétiques quittent Berlin, ou au moment où le mur tombe, les États-Unis, l'impérialisme dominant, considèrent que la Russie n'en a plus pour longtemps. Elle a trouvé à sa tête, ou elle a mis à sa tête, on peut le dire aujourd'hui, un nommé Eltsine, après que Gorbatchev donc, ait fermé la boutique, en gros, pour faire simple, contre l'avis d'ailleurs de ses populations consultées par référendum, qui ne voulaient pas de la dissolution de l'URSS. Ça, c'est connu. Le référendum était tout à fait clair dans ses résultats. Et les États-Unis donc progressent et ils voudraient bien que la Russie, très affaiblie des années Eltsine, la Russie rentre dans ce jeu des droits de l'homme, etc., et l'affaiblir là-dessus et la faire rentrer dans un moule encore plus occidental. Et il est question de les faire rentrer dans le Conseil de l'Europe, c'est-à-dire la Convention européenne des droits de l'homme, le respect des droits de l'homme, etc. Alors ça regimbe un peu, ça ne se passe pas tout seul, mais le moment décisif, et j'insiste là-dessus parce qu'il est très très peu connu, Le moment décisif, c'est qu'à un moment donné, Eltsine s'oppose, parce qu'il est encore prêt à des tas d'abandons de souveraineté et de richesses au profit des intérêts anglo-saxons, qui sont de plus en plus nombreux sur le territoire de l'ex-SS. À un moment donné, donc, Eltsine est en conflit avec le Parlement russe, qui a été élu, la Douma. Et il est tellement en conflit qu'à un moment donné, la Douma refusant encore des abandons de souveraineté que Eltsine veut obtenir pour faire plaisir aux États-Unis, ou parce qu'il est dépendant, soumis, voire stipendié par les États-Unis, ou parce qu'il a trop bu, puisqu'on sait qu'Eltsine a passé une partie de ses journées à boire et qu'il n'est donc pas lucide 8h sur 8. Eltsine fait donner l'assaut au Parlement. C'est-à-dire qu'on a un événement qui est fondateur en termes de rentrée de la Russie dans le Conseil de l'Europe, qui est un événement monstrueusement antidémocratique, anti des droits de l'homme. C'est-à-dire qu'on a un chef d'État qui fait tirer sur son Parlement et qui fait tirer dans des conditions... Alors, ça a été beaucoup caché, mais on sait que le Parlement a été agressé, qu'il n'avait pas les moyens de se défendre, que les parlementaires sont sortis, ont été abattus les uns après les autres, que la garde, les militaires qui gardaient le Parlement ont été abattus par des snipers qui étaient sur les toits tout autour. On a affaire à un véritable drame politique qui, en fait, au lieu de créer un choc, va créer les conditions d'accès de la Russie aux droits de l'homme. Donc il y a un crime fondateur pour que la Russie devienne adhérente à la Convention européenne des droits de l'homme. C'est-à-dire, vous commencez par tuer, par assassiner des parlementaires, par tuer des gardes de la garde militaire de ces parlements. On sait qu'une partie des soldats morts ne seront pas identifiés et que leurs corps seront jetés dans des bains d'acide. Enfin, on a affaire à quelque chose d'horrible, d'horrible. Et c'est ça qui ouvre la porte, parce que finalement, il n'y a plus à la tête du pays que Eltsine, qui fait à peu près tout ce que les États-Unis veulent, et donc qui est le bienvenu dans le Conseil de l'Europe. Donc la Russie rentre au Conseil de l'Europe le 20 décembre 1995. Et on peut dire qu'à ce moment-là, presque tout est bouclé. Parce que ils sont obligés d'accepter les règles. Ils ne sont pas dans l'OTAN, mais déjà là, on a des moyens de les faire traverser. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Conseil de l'Europe, il y a quatre observateurs, donc ils ne sont pas des membres du Conseil de l'Europe tels que je vous les ai nommés, mais qui sont le Canada, les États-Unis, le Japon et le Mexique. Autant d'amis des États-Unis. Donc, vous pouvez régler la question, enfin, intervenir dans la question des droits de l'homme sur le continent européen avec l'appui du Canada, des États-Unis, du Japon. Et donc, on a affaire à des donneurs de leçons extérieurs à l'Eurasie qui viennent donner des conseils et intervenir dans l'évolution de l'Europe. Dernier avatar, ça s'appelle l'organisation de sécurité collective en Europe. Alors là, on aborde la dernière période, c'est-à-dire que non seulement donc, il y a création de l'union économique que nous connaissons sur la partie ouest du territoire, qui s'agrandit et s'agrandit de plus en plus vers l'est. Ensuite, il y a l'outil, donc droit de l'homme, liberté, qui est aussi entre les mains des mêmes, qui s'agrandit de la même façon. Et puis, il reste la cerise sur le gâteau, j'allais dire, qui est le Conseil, l'Organisation pour la sécurité collective en Europe. Alors, qu'est-ce qui se passe ? À un moment donné, alors on est bien avant la disparition de l'URSS, mais on a ce qu'on appelle l'épisode des accords d'Helsinki. Helsinki, donc, c'est révélateur, c'est un endroit neutre à la frontière de l'URSS, mais on a l'URSS manifeste des volontés de détente, on a appelé ça la coexistence pacifique, c'est-à-dire que du côté de l'URSS, on se dit, bon, on n'a pas fait la guerre, on ne s'est pas battu avec les États-Unis, on a été obligé de se livrer à une course aux armements qui aujourd'hui d'ailleurs n'est pas terminé, en particulier l'armement stratégique nucléaire. Mais il faut rappeler quand même que depuis 1945, l'été 45, donc les deux premières bombes atomiques de l'histoire de l'humanité jetées sur Hiroshima et Nagasaki, il y a une espèce de course-poursuite entre les États-Unis et l'URSS. L'URSS qui part avec du retard, mais des capacités industrielles et des capacités scientifiques. Donc il y a une course de vitesse pour qu'à aucun moment l'armement nucléaire des États-Unis ne dépasse et ne soit donc trop supérieur à l'armement soviétique. Et c'est ce qui explique au fond qu'une espèce de statu quo stratégique, puisque les États-Unis ont été dans l'incapacité de prendre de l'avance et de menacer l'URSS de disparition par la voie atomique. Je ne rentre pas dans le détail, il y a toute une série de traités, c'est-à-dire au moment quand les États-Unis voient que l'URSS rattrape son retard en capacité, en taille, en système de lancement des bombes atomiques, les États-Unis vont négocier. Donc il y a une habitude de respect mutuel, on se croit, il y a des inspections des militaires d'un pays dans l'autre, enfin, ça va assez loin dans le niveau de confiance. Il faut admettre qu'on ne veut pas la guerre et donc on se donne les moyens qu'elle n'ait pas lieu, même si les capacités militaires augmentent énormément. C'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Et ça, on peut dire, moi, je mets ça sur le crédit de l'URSS, qui a évité l'abus de l'arme atomique par les États-Unis. Sans cette possibilité d'équilibre, on appelle ça l'équilibre de la terreur, il faut savoir qu'il y en a un qui avait terrorisé et qui voulait continuer à terroriser, et l'autre qui ne voulait pas être terrorisé. Il n'y a pas donc symétrie. Il y en a un qui fait la course devant, qui veut casser l'autre, et l'autre qui essaye de dire « mais vous ne me casserez pas ». C'est ça qui se passe. Et donc j'en arrive à ces accords d'Helsinki. Donc on est dans les années 77-78. Donc l'URSS est toujours vivante, mais les États-Unis d'un côté qui ont souffert alors, en 77, c'est deux ans après la défaite du Vietnam. Donc les États-Unis se rendent compte que quand même ils ne peuvent pas faire n'importe quoi, n'importe où, qu'il y a des résistances, qu'en faisant la guerre au Vietnam, ils ont donné l'occasion à un régime communiste de s'installer à un endroit où il n'était pas avant. Enfin, tout ça les fait réfléchir. Ils ont un moment de un peu de faiblesse. Et l'URSS, j'allais dire, tombe dans le panneau, je ne sais pas. L'URSS accepte de dire, ben, on va essayer de parler d'intérêts communs et de garantir la sécurité, c'est-à-dire plutôt que de se menacer avec des quantités croissantes de bombes atomiques, trouver des accords. Hein, ça s'appelle, on va créer une organisation pour la sécurité commune en Europe, qui s'appelle l'OSCE, qui existe toujours. Et dans cette OSCE, alors qui démarre comme ça, on va faire rentrer petit à petit, après la disparition de l'URSS, on va faire petit à petit rentrer toute une série de pays qui sont des pays ex-soviétiques. Et donc on a aujourd'hui, et c'est peu connu parce qu'elle n'a pas un très grand rôle, mais en même temps elle continue à exister, on va faire rentrer tous les pays de ce qu'on appelle l'Asie centrale, ex-soviétiques. Donc on a aujourd'hui une organisation qui comporte évidemment tous les pays de occidentaux classiques, mais qui comporte aussi la Russie, qui comporte aussi le Kazakhstan, qui comporte l'Ouzbékistan, qui comporte le Tadjikistan, la République kirghize. Tous ces pays-là sont membres de l'Organisation pour la sécurité collective de l'Europe. Il y a 57 participants, c'est considérable. Et là, les États-Unis sont membres. Ce n'est pas comme dans le Conseil de l'Europe où ils sont observateurs. La sécurité du continent européen est garantie par un pays qui ne fait pas partie de l'Europe. On est bien tout à fait dans une nouvelle forme d'exercice de la domination des États-Unis sur le continent. Et là, alors, avec les accords d'Helsinki et puis l'extension de l'OSCE, ils sont pratiquement au cœur du dispositif, puisqu'ils ont un endroit où on peut discuter, se rencontrer, savoir ce qui se passe chez les uns et les autres, qui occupe la plus grosse partie de ce territoire, de cette immense Eurasie. Et voyez que tout ça a un sens. C'est-à-dire, je regarde un peu l'heure, tout ça a un sens. C'est-à-dire que, mis bout à bout, ces structures européennes, ces institutions européennes, donc les institutions de l'Union européenne, celles qu'on connaît, qui ont grossi, l'institution donc, du Conseil de l'Europe, qui a pris de l'extension alors, sur le domaine spécifique des droits de l'homme, et enfin l'Organisation pour la sécurité collective en Europe, on a affaire à une capacité des États-Unis d'intervenir sur l'avenir de cet immense continent, à travers donc la Russie et ses anciens et les anciennes républiques soviétiques, qui fait que aujourd'hui, il y a des pays qui sont dans des organisations, et qui fait qu'aujourd'hui, la Russie est en fait enserrée à la fois dans des dispositifs dont elle est membre, c'est le cas de l'OSCE, et à la fois dans des réseaux d'alliances qui font que les États-Unis ont des alliances avec des morceaux de l'ex du RSS à travers ce traité de sécurité collective. Alors, on peut dire, effectivement, c'est destiné à la sécurité collective, c'est pour le plus grand bien de tous, c'est pour éviter la guerre. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que derrière ça, il y a l'OTAN qui n'a pas cessé de grandir. Il y a donc une possibilité d'intervenir, de contrôler et de mettre son grain de sel dans les affaires de l'Asie centrale. Les États-Unis sont assez près de leur objectif qui n'a pas changé. Et c'est là-dessus que j'insiste. Cet objectif n'a pas changé d'un iota depuis 1945. Il a fallu s'adapter, d'abord à la résistance militaire soviétique. Je parlais de la course aux armements. Il a fallu s'adapter à l'évolution du monde en général, à l'évolution des pays, des mentalités, etc. Il a fallu laisser un petit peu de marge de manœuvre, mais trompeuse à mon sens, à l'Europe pour lui faire croire qu'elle était libre. Mais je rappelle que, quand même que dans les traités européens, il est dit que l'organisation de la défense de l'Europe passe par l'OTAN. Et que c'est ça le point crucial. Ce qui veut dire, je le dis parce qu'il faut le rappeler, que tout discours qui vous est tenu et qui vous sera tenu encore dans les jours qui viennent et dans les semaines qui viennent sur la défense européenne est un discours totalement trompeur puisqu'il est en faux, il est en faux par rapport aux traités. Dans les traités européens, il est tout à fait clair que la défense de l'Europe, elle est entre les mains des États-Unis et de l'OTAN. Et quand je dis l'OTAN, c'est les États-Unis, puisque tous les postes de commandement sont occupés par des généraux de l'armée des États-Unis. Il n'y a pas d'illusion là-dessus. La seule illusion qui est entretenue, c'est de dire, pour certaines tâches immédiates et pour certaines dépenses secondaires, et pour des opérations tactiques et pas de stratégie, l'Union européenne peut mettre un peu d'argent au bassinet et mettre un peu ses forces en jeu. Et le résultat, et on en arrive à la situation d'aujourd'hui, et c'est là-dessus que je voulais conclure, le résultat, c'est qu'aujourd'hui, cette politique menée par tous ces biais, c'est-à-dire d'étendre l'Europe, cette Europe qui n'a pas de frontières, qui est grande, qui est petite, qui est à l'ouest, à l'est, bon, cette Europe est arrivée à la frontière de la Russie. Et il y a aujourd'hui, donc, des troupes américaines en Pologne, il y a des troupes américaines dans les républiques baltes, il pourrait y avoir des troupes, il y en a déjà en partie, des troupes en Géorgie. Tout ça fait que la Russie aujourd'hui, je ne me fais pas son défenseur, mais peut à bon droit dire qu'elle ne voulait pas la guerre, mais elle est encerclée. Elle est encerclée puisque, en fait, l'adversaire historique, parce que il n'y a jamais eu de déclaration de guerre des États-Unis à la Russie, mais ce que je voulais dire à travers cette intervention de ce soir, c'est que pour les États-Unis, la Russie est un élément de trop, c'est un morceau trop gros, et cette Eurasie est très gênante par rapport à ce continent américain qui est trop petit. Alors, même dans le continent américain, la domination des États-Unis est aujourd'hui plus fragile qu'elle n'a été, mais elle est encore forte, mais par contre, sur cette Eurasie, ils ne maîtrisent rien. Donc quand vous faites le compte de tout ça, de cette évolution donc, qui commence en 1945, qui est en train de s'achever sous nos yeux, et que vous y ajoutez, et c'est là l'élément central et décisif pour la transformation du monde, c'est-à-dire que cette volonté des États-Unis d'encercler la Russie et peut-être de la dépecer, c'est-à-dire au moins de s'emparer de ses richesses par intervention des intérêts bancaires, financiers et industriels des États-Unis sur ce continent-là, elle est bloquée. Parce qu'il y a une nouvelle alliance qui a pris corps, qui est l'alliance entre la Chine et la Russie. C'est-à-dire que quand vous ajoutez la Chine et la Russie telle qu'elle est, vous avez le contrôle de cette grande masse du continent qui est assurée par deux pays qui ne veulent plus se laisser manger et qui ont décidé que les États-Unis avaient déjà bien assez grandi et que leurs intérêts n'étaient pas les seuls au monde, que d'autres avaient des intérêts, la Chine a des intérêts, la Russie a des intérêts. C'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe. Et il faut voir que ce qu'on appelle le Heartland, donc cette énorme masse eurasiatique, est en train d'être organisée, alors à travers toute une série de traités sur lesquels je ne m'arrête pas, mais dans lesquels sont membres donc la Chine, les anciennes républiques d'Asie centrale, la Russie, etc., le Kazakhstan, entre autres, est en train de s'organiser pour que cet espace-là soit, à l'époque moderne, l'équivalent de Gengis Khan et de Tamerlan dans les années... C'est-à-dire un empire, enfin, plutôt une série d'alliances, c'est plus un empire, une série d'alliances qui fait que les pays qui sont là, les États-Unis ne sont pas là, les pays qui sont là décident de travailler ensemble et de s'organiser. Et effectivement, toutes les relations... Et quand vous avez aujourd'hui des centaines de trains chinois qui emportent de la marchandise en Europe et d'autres trains qui reviennent dans l'autre sens parce que les Chinois importent aussi beaucoup, vous avez une organisation de cet espace eurasiatique qui est en train de prendre corps sous nos yeux. Ce qui veut dire que la partie qui a été jouée en disant il faut que l'URSS et puis la Russie disparaissent et que les États-Unis mettent le grappin sur cet énorme territoire est en train d'échouer. Premier témoignage, leur départ d'Afghanistan, mais surtout les progrès énormes de la coalition, j'allais dire, parce que c'est une coalition sino-russe, font que désormais les États-Unis n'ont plus d'espoir de grignoter cet immense territoire. qui se joue encore, c'est des frictions, parce que les États-Unis sont en train de se rendre compte qu'ils n'y arriveront pas. Ils ont des troupes à la limite sur la frontière russe, hein, je parle en Pologne, dans les Pays-Baltes, etc. Mais ils savent bien que le moment est passé, probablement, de pouvoir aller plus loin, c'est-à-dire de pouvoir favoriser la destruction de la Russie, et pouvoir surtout s'emparer de ses richesses. Et il y a eu des projets, d'ailleurs, avec Descartes, de découper la Russie en une série de petits morceaux, à l'ouest, au centre, etc., pour qu'il n'y ait plus qu'un empire, qui soit les États-Unis. Ça, c'est en train de rater. C'est en train de rater, mais c'est compliqué, parce qu'un empire ne se défait pas en 24 heures. L'URSS s'est défaite parce qu'elle n'était pas un empire, justement. C'est ça que la grosse différence. Mais un empire qui est organisé pour contrôler la totalité des pays du monde par la mer. Ce n'est pas pour rien que les États-Unis ont 12 porte-avions. C'est-à-dire qu'ils encerclent l'adversaire. Mais l'adversaire, dans la mesure où il est organisé, l'adversaire, l'opposant géostratégique, il ne s'agit pas d'une hostilité, il ne s'agit pas d'une volonté de guerre, mais l'opposant stratégique qui est l'Eurasie organisée autour de la Russie et de la Chine populaire, fait que le rêve des États-Unis de dominer le monde est en train de s'écrouler sous nos yeux. C'était ça que je voulais vous dire en toute simplicité. Je vous remercie de votre attention. On va finir par une petite chanson. Alors, ça se passe un soir sur la Place Rouge. C'est dans une chanson que vous connaissez tous, qui a eu son succès, qui s'appelle « Le temps du muguet » dans la version française. Et ça se passe devant une foule qui est très émue. Et c'est une très, très jolie chanson. Et puis, c'est un peu, comme on dit, de l'âme russe qui s'exprime là. Non, ça, c'est... Non, c'est ce qui est sur la... Non, on va prendre ce qui est sur la clé. Voilà, c'est pour montrer que la Russie n'est pas morte et que l'empire états-unien qui voulait sa disparition n'a pas réussi et que la Russie n'est plus du tout prête à disparaître et que donc le temps des États-Unis mettre chez eux est déjà là. Personne n'a contesté jamais la souveraineté des États-Unis sur leur territoire, mais toutes les contestations de la souveraineté des États-Unis sur le territoire tiers, sur des... est bienvenue et a de plus en plus d'écho dans toutes les populations du monde. Voilà, merci de votre attention et on se retrouvera comme toutes les semaines, tous les mardis, pour de nouvelles réflexions et de nouvelles observations. On parlera en particulier la semaine prochaine du Kazakhstan, puisqu'on est au cœur de ce sujet. Merci, Sidi. Oh!